Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Moed Katan, page 7, DAF Zain.
Bonjour à tous, c'est DAF est clair, Moed Katan Zain. La Mishnah l'a vu qu'il y avait dans certaines situations, on ne pouvait pas chasser toutes sortes de bestioles de manière habituelle. La Gemara nous dit qu'est-ce qui s'appelle de manière habituelle? Creuser un trou près de leurs endroits et leur mettre là-bas un piège, de manière inhabituelle, taper sur la terre jusqu'à que leur cachette s'effondre sur eux et qu'ils s'étouffent. Rabbi Ben Elazar nous dit que quand on a dit que c'était interdit, c'est seulement dans le cas où de toutes les façons ils n'ont pas de proximité avec des arbres. Mais s'ils peuvent être à proximité d'arbres et qu'ils peuvent les attaquer, là on a le droit de les attaquer de manière habituelle. Dans la Mishnah, on a vu qu'on a le droit de boucher un trou dans un mur qui s'est fêlé ou autre, on a le droit de qui s'est fissuré, on a le droit de le retaper. Qu'est-ce que ça s'appelle? Qu'est-ce qui s'appelle Mekarin? Première explication, Utsav et Dafna avec des feuilles de palmier ou autre. Deuxième explication, mettre toutes sortes de pierres sans les cimenter. Alors Frisda nous dit que ce qui est enseigné dans la Mishnah pour le faire de manière inhabituelle, c'est seulement quand c'est autour d'un potager. Mais chez toi à la maison, tu as le droit de le faire puisque c'est pour te protéger des voleurs. Est-ce qu'on pourrait supposer qu'on a une preuve, parole de Rafrisda, puisqu'il est marqué qu'un mur qui met en danger les gens de la rue, on a le droit de le détruire et de le reconstruire? Comment est-ce qu'on en voit qu'on a le droit de le construire, de détruire et reconstruire? Alors dans la Mishnah, il n'y a marqué qu'on n'a pas le droit de construire. Donc Rafrisda a raison. Quand c'est une maison, on a le droit. On dit là, non, pas forcément. Là-bas, c'est parce qu'il y a danger, c'est pour ça qu'on a permis. Autre lecture de cet échange, il y a marqué dans la Braïta qu'on ne peut construire, détruire et reconstruire seulement s'il y a danger. Donc on voit que c'est contraire aux paroles de Rafrisda. On dit là, non, tu sais pourquoi là-bas, on a besoin d'arriver à la logique et à la raison de permettre à cause du danger, parce qu'on lui permet non seulement de construire, mais même de détruire. Jacques Mara, si c'est comme ça, Bémet, pourquoi est-ce qu'on lui permet de construire, de détruire et de reconstruire? Arrête, toute la raison de la permission, c'est le danger. Ben, permets-lui de détruire, ça devrait suffire. Pour la Gemara, si jamais tu ne lui avais pas permis de reconstruire, il ne l'aurait pas détruit. Ravashi nous ramène une preuve de la Mishnah que Rafrisda a raison, c'est-à-dire qu'on a le droit de construire un mur autour de sa maison. Il est marqué dans la Shemitah, on peut construire normalement. De quelle construction on parle? Si on parle d'une maison, on a besoin de dire que pendant la Shemitah on peut, c'est sûr qu'on peut. Et là forcément, on parle d'un potager. Et c'est à ce sujet qu'on a dit que la moitié est interdit. Mais construire un mur autour d'une maison, c'est permis même pendant la moitié, puisque c'est la vara aved, puisqu'on veut se protéger des voleurs. La Mishnah nous enseigne qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce qu'un Kohen peut venir pendant la moitié pour trancher est-ce qu'il y a une Touma ou pas? Rabbi Meir pense qu'il peut venir sans, si jamais il pense que c'est Tahor, tant mieux. S'il pense que c'est Tamé, il se tait. Rabbi Yossi, Chachamim nous disent qu'on ne peut, pas le faire venir parce que quand il va venir, il va donner son avis et donc on n'a pas le droit de le faire venir de peur qu'il nous rende impur. La Braïta nous ramène. Rabbi Meir nous dit qu'on peut le faire venir au pire des cas, il se tait. Rabbi Yossi nous dit qu'on ne peut pas le faire venir parce que ça n'existe pas, ça, au pire des cas, il se tait. Il doit forcément expliquer et trancher comment ce qu'on doit se conduire. Et Rabbi pense que comme Rabbi Meir dans un Metzora Mukhlat, et comme Rabbi aussi, dans un Metzora Musgar, et comme Rabbi aussi dans un Metzora Mukhlat, j'expliquerai dans un instant. Rava, avant de passer en mode Mukhlat et Musgar, nous explique. Rabbi Meir et Rabbi aussi. Ils sont d'accord, quand la personne était pure, qu'on n'amènera pas le Kohen. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Aujourd'hui, monsieur est pur. Si le Kohen vient, dans le meilleur des cas, il va rester pur. Dans le pire des cas, il va être enfermé. Donc il vaut mieux ne pas amener le Kohen. On n'a rien à gagner à sa présence. Esgar Rishon, les 7 premiers jours, c'est ce qu'on appelle Musgar. Donc la première fois, on suppose qu'il y a une Sarat. Tout le monde est d'accord que on amène le Kohen. Oh, mais dans le pire des cas, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que le Kohen n'a pas à trancher. Dans le meilleur des cas, il va le purifier. Donc il y a un intérêt à le ramener pendant Chol HaMoed. Amène-le. La marloquette, elle est au sujet du Esgar Sheni, c'est-à-dire les 7, la deuxième série de 7 jours. Dans ce cas-là, il y a un risque. Parce que le Kohen, d'après Rabbi aussi, sera obligé de trancher. Et donc, il y a un risque. Et c'est pour ça que Rabbi aussi nous dit, ne l'amène pas. Rabbi Meir lui pense qu'il n'est pas obligé de trancher. Et donc, amène-le. Parce que le risque, il n'y a pas, au pire des cas, il mais il y a tout à gagner. Parce que peut-être, il va le libérer de sa touma. Rabbi, maintenant, lui, ce qu'il nous a dit, Musgar et Mukhlat. Donc, Musgar, c'est celui qui est en stand-by. C'est celui qui attend qu'on tranche. Mukhlat, c'est celui qui a déjà été statué comme étant médecin. Rabbi nous dit qu'il est d'accord avec Rabbi aussi, c'est-à-dire de ne pas l'amener quand il est mukhlat, et avec Rabbi Meir quand il est musgar. On dit la Gemara, arrête, c'est marqué le contraire. Il y a une Braïta qui va dans le sens contraire. C'est-à-dire que il serait d'accord avec Rabbi Meir dans mukhlat et avec Rabbi aussi dans musgar. La Gemara nous explique que c'est une marloquette tanaïm dans les paroles de Rabbi. On a une marloquette fondamentale. Qu'est-ce que la personne apprécie le plus, la compagnie de sa femme ou la compagnie des gens? On a aussi une différence fondamentale entre le mousgar et le mukhlat. Le mousgar est en compagnie des gens, mais n'a pas le droit au rapport. Le mukhlat est en compagnie de sa femme, il a le droit d'avoir le rapport, mais n'est pas en compagnie des gens. Et donc, tout dépend de ce qui est le plus important pour lui, puisque le problème, c'est de lui annoncer une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui s'appelle une mauvaise nouvelle? Si je pense qu'il préfère la compagnie des gens, quand il est mukhlat, ben, il n'a pas la compagnie des gens. Donc, c'est sûr que on va amener un Kohen. Dans le pire des cas, il va rester mukhlat. Dans le meilleur des cas, il va revenir vers la compagnie des gens. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbi penserait comme Rabbi Meir. Mais dans le cas de Mousgar, dans le cas de Mousgar où il est avec la compagnie des gens, il te dit non, n'amène personne, parce que moi, je pense comme Rabbi aussi, il est obligé de trancher, et ça peut empirer. On peut le faire devenir mukhlat, il va perdre la compagnie des gens. Ça, c'est si on pense que la compagnie des gens est plus importante. Il y a une autre façon de voir. La compagnie de sa femme est plus importante. Et donc, s'il est mukhlat, il est en compagnie de sa femme, il risque de la perdre en devenant en processus de purification. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas amener de Kohen. Mais s'il est mousgar, et de toutes les façons, il n'a pas la compagnie de sa femme, et ce qu'il peut avoir, c'est de devenir mukhlat. Donc là, amène un Kohen. Donc la marloquette entre les deux avis dans les paroles de Rabbi est justement de savoir qu'est-ce que l'homme préfère plus, la compagnie des gens ou la compagnie de sa femme. On dit la Gemara, en tous les cas, je comprends de toi que celui qui est mukhlat a le droit d'avoir un rapport. La Gemara, oui. Il y a marqué Veyashav Yehoutz Laolo Shivatem. Il est marqué que quand il est en train de se purifier, pendant 7 jours, il va être en dehors de sa maison. Aholo, c'est sa femme, comme il est marqué qu'on n'avait pas le droit au rapport. Et après, on a eu le droit, Matan Torah, retourner vers vos Ohalim. Donc, avoir le rapport, c'est son Ohel. Et il est marqué que c'est 7 jours. Donc, c'est seul ces 7 jours-là qu'il est interdit. Seulement ces 7 jours-là. Mais quand il est mukhlat, il n'a pas le droit d'avoir un rapport. Il a le droit d'avoir un rapport, pardon. Si déjà, quand il est en train de se purifier, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec sa femme, à plus forte raison, quand il n'est pas impur. Rabbi Chia demande à son oncle Rabbi, arrête, tu nous avais dit que Yotam, le fils de Ozyahou, est né pendant que Ozyahou, son père, était lépreux. C'est-à-dire que on a le droit, en tant que lépreux, d'avoir un rapport. Lui dit Rabbi, t'as raison. Moi aussi, je pense qu'un lépreux a le droit d'avoir un rapport. Quelle est la marloquette, comme il expliquait dans la Braïta? Est-ce qu'on va dire que ce qui est marqué dans la Torah, c'est interdit? Ok, bah c'est seulement ça qui est interdit. On va faire le calva première que Rabbi Yossi Rabbi Uda a fait, à savoir, quand il est en processus de purification, il est interdit à plus forte raison quand il n'est pas en train de passer ce processus. En tous les cas, nous dit la Gemara, tout le monde est d'accord que tant que le Kohen ne s'est pas prononcé, il n'y a pas de Touma, puisqu'on te dit, est-ce qu'on amène le Kohen, est-ce qu'on n'amène pas le Kohen? Mais ça change quoi? S'il est tamé, il est tamé. Répond la Gemara, oui, on ramène à ça deux sources. Première source est marquée Uvium Eraotbo. Donc il y a des jours où on amène le Kohen, il y a des jours où on ne l'amène pas. C'est quoi ces jours où on ne l'amène pas? Un Khatan ou une personne qui est en pleine fête, on n'amène pas. Ah mais à quoi ça sert de ne pas l'amener? Tant qu'on ne l'a pas amené, il n'a pas tranché. Rabbi dit, moi j'ai pas besoin de ce passouk. Il y a un autre passouk qui est marqué que quand le Kohen vient et qu'il se rend compte qu'il va rendre impur, il va donner le temps aux gens de la maison de vider la maison pour permettre à tout ce qui est à la maison de rester pur. Donc on voit que le Kohen, tant qu'il n'a pas tranché, il n'y a pas de Touma. Quelle différence entre les deux enseignements? Ah ben il nous dit, c'est seulement une différence de pshat dans les psukim. Alors il nous dit non, il y a une différence. Est-ce qu'on peut permettre de faire attendre le psak du Kohen pour devoir reshut? D'après celui qui dit qu'on apprend de ouvir Miro Albo, c'est que quand c'est une mitzvah, un khatan ou pendant la fête. D'après celui qui te dit que le Kohen va attendre et pour déménager tout ce qui est dans la maison, même quand c'est devoir reshut. Demande la Gemara, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda n'a pas appris du pasouk de Rabbi? Il nous dit, parce que dans le pasouk de Rabbi, c'est quoi? Il est venu, il a vu une touma dans la maison. Et il veut se prononcer, il a le droit d'attendre. Mais évidemment, la touma dans la maison, c'est quelque chose qui est incroyable, c'est un chidouche, c'est quelque chose qui n'existe pas. Dans ce cas-là, je comprends qu'il peut attendre. Mais dans d'autres cas, peut-être qu'il n'aurait pas le droit d'attendre. Et Rabbi nous dit, en fait, j'ai besoin des deux psukim. Si j'avais enseigné que le pasouk de Uvia Meraotbo, j'aurais dit qu'on a le droit que pour la mitzvah, que pour le faire attendre que pour une mitzvah. Si j'avais enseigné que le pasouk de la maison, j'aurais dit que c'est exceptionnel. Une maison, c'est un chidouche. C'est pour ça que j'ai besoin des deux psukim. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. On a le droit d'attraper toutes sortes de bêtes de manière habituelle. Si jamais ils sont proches d'un endroit, ils peuvent créer un dégât. On a le droit de reconstruire une maison, un mur de maison. C'est seulement quand c'est un mur de potager qu'on avait dit qu'on a le droit de boucher seulement les trous, mais une maison, on a le droit de le faire même pendant Chol HaMoed. Pendant la Shemitah, de toutes les façons, on a le droit de reconstruire. Pendant la Chol HaMoed, on a le droit de reconstruire, de détruire, de reconstruire quand il y a danger. Un Kohen qui doit venir se prononcer pour annoncer est-ce que la personne est Tahor ou Tamé. Si la personne est Tahor, tout le monde est d'accord qu'on ne l'amène pas, on a tout à perdre. Si la personne a passé le premier Esguer, tout le monde est d'accord qu'on l'amène, on n'a rien à perdre, au pire des cas, il va se taire. La Marloquette, elle est dans le deuxième Esguer. Est-ce qu'on va amener le Kohen ou pas? D'après Rabbi Meir, il peut se taire, donc on n'a rien à perdre. D'après Rabbi aussi, il ne peut pas se taire. Quand on est mukhlat et quand on est mousgar, Rabbi a donné son avis. Donc tout son avis dépendait de En fait, il y a deux avis contradictoires dans les paroles de Rabbi. Est-ce que la compagnie de sa femme est plus importante et c'est pour ça que quand il est mouchlat, laisse-le, n'amène pas le Kohen? Ou est-ce que la compagnie des gens est plus importante et c'est pour ça que quand il est mousgar, n'amène pas le Kohen? Tout le monde est d'accord que Kohen mouchlat, que Metzora mouchlat a le droit d'avoir un rapport et on a une marloquette au sujet de. Non, pardon. Tout le monde est d'accord que pendant la Sfira, c'est-à-dire quand il est en train de se purifier, on n'a pas le droit d'avoir un rapport. La marloquette, elle est. Au sujet d'un Kohen Mouchlat, est-ce qu'on a le droit d'avoir un rapport? Tout le monde est d'accord aussi que tant que le Kohen ne s'est pas prononcé, il n'y a pas de Touma. Est-ce qu'il a le droit de ne pas se prononcer pour Devar Mitzvah seulement ou même pour Eshout? C'est là qu'on a le marloquette. Le Daf est clair, Baruch HaShem. Il y a demain, Bezrat HaShem.